Milliards de voisins, avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous parlons éducation, comme chaque semaine. Comment les enfants apprennent à parler? On ne s'en rend pas toujours compte, mais les bébés apprennent leur langue en un temps record comparé aux adultes lorsqu'ils doivent intégrer une langue étrangère, par exemple. Alors, par quel mécanisme du cerveau le langage vient aux enfants? Quels sont les facteurs qui favorisent l'acquisition de la parole qui permet ensuite de structurer sa pensée? Quel rôle pour les parents? C'est l'occasion de poser toutes vos questions à nos invités sur WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. Alex de Caravaggio est avec nous en studio. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en sciences cognitives et maître de conférences en psychologie du développement à l'Université de Paris. Également avec nous, Laurence Rameau. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes puéricultrice, formatrice de professionnels de la petite enfance. Vous nous parlerez de tout ce qui se passe dans les crèches, bien sûr, de 0 à 3 ans. Et vous publiez « Comprendre son bébé ». C'est publié l'année dernière aux éditions First, dans lequel vous abordez d'ailleurs le problème de l'acquisition du langage. Et bien sûr, vous posez toutes vos questions au 33 7 64 45 51 41. Tiens, je vous lis deux petits commentaires. Mahamat Ketan Jamena au Tchad. Le premier mot que mon enfant a dit, c'est « maman ». Et ce jour-là, j'étais très content. Mais parfois, il faut dire que les pères sont assez vexés. Au contraire, non ? Certains pères aimeraient que le premier mot, ça soit papa. Et ça peut être le cas, non ?
Des fois, il y a même une compétition entre maman et papa.
C'est ça, chacun entraîne l'enfant en cachette de l'autre.
Exact.
Gradel, qui a 24 ans, qui a une fille de 2 ans à Kinshasa, en RDC. Il nous dit « moi, je parle français à ma fille de 2 ans, mais à la maison, le reste de la famille parle lingala. Est-ce que c'est un problème pour l'acquisition de la langue française ?» Non,
non,
c'est ce que vous faites de la tête. Non, Alex de Carvalho. Vous-même, vous êtes multilingue. Hein. Vous êtes brésilien, vous avez grandi à Rio de Janeiro et vous avez appris le français au lycée. Et ensuite, vous êtes arrivé en France pour faire vos recherches. On va bien sûr discuter, puisque une grosse partie, voire l'immense majorité, voire la quasi-totalité de nos auditeurs sont multilingues, on le sait, hein, les voisins et les voisines. Vous nous appelez et donc nous parlons de toutes ces questions de l'acquisition du langage de la langue maternelle. 33 7 64 45 51 41. En fin d'émission, un tour du monde des parentalités avec la pédopsychiatre Marie-Rose Moreau. Comment devenir des parents ordinaires ici et dans le monde ?
7 milliards de voisins.
Qui refait le monde avec 7 milliards de voisins.
Mais tout de suite, reportage. Écoutez des enfants nous raconter comment ils ont appris à parler. Naïm, Ind, Luna, Mariam, Adam, ils ont 10 ans, 11 ans, ils sont élèves en CM2 à l'école primaire Jean-Jacques Rousseau de Colombes, en région parisienne. Certains se souviennent de leurs premiers mots et d'autres ont encore en mémoire les efforts de leurs frères et sœurs, les plus petits, pour apprendre à parler. Reportage de Charlie Dupiau.
Quand ma sœur était petite, mon père il mettait de la musique sur la télé et elle chantait et on rigolait. Bah, les premières chansons, c'était des chansons de ma langue, par exemple, de l'Albanie. C'était de la musique qui bouge, quoi, en gros. Enfin, quand elle avait 2 ans, 3 ans, un truc comme ça, je me rappelle. Elle chantait aussi en français, par exemple, je sais pas, Vianney avec Maître Gims. Ça paye comme jamais de Maître Gims. Elle aimait beaucoup cette musique. Papa Outé aussi.
De Stromae.
Oui, de Stromae. Et elle avait appris une chanson à l'école. Trois petits chats, trois petits chats. Et ça me faisait rigoler. Quand elle chantait, bah, elle savait pas vraiment parler. Elle faisait la 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 la. Je vais pas vous montrer comment chanter, mais elle était petite, quoi. Et elle chantait. Elle était petite et il fallait qu'elle apprenne les mots.
J'ai un cousin. À cette époque, il avait 1 an, 2 ans. À la télé, je lui mettais des comptines pour bébé et il applaudissait. Frère Jacques, un éléphant qui se balançait. Il entendait et il comprenait. Parce qu'il aimait bien chanter. Il essayait, mais il n'y arrivait pas. Par exemple, il disait « da, 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 da ».
Quand j'avais appris à parler, mon premier mot, c'était pinceau. C'est bizarre, mais moi, c'était pinceau, mon premier mot que j'ai dit. Quand ma mère, elle se maquillait, et bah, moi, je voulais toujours essayer et prendre la poudre. Et je disais, maman, je peux avoir le pinceau, pinceau. Et après, je mettais. C'est pour ça.
Ma mère, elle avait posté une vidéo sur YouTube de moi quand j'étais petit, à 13 mois, je parlais avec ma grand-mère au téléphone. Et après, bah, ça avait fait rigoler ma mère.
Qu'est-ce que tu disais à 13 mois ?
Yo, 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 un truc comme ça. Enfin, quand on est petit, on apprend à parler. Et bah, moi, j'étais en train d'apprendre et je parlais comme ça.
Quand j'étais petite, je parlais tout le temps arabe. Et maintenant, j'ai tout oublié.
Moi, quand j'étais petit, ma mère et mon père, ils parlaient français et albanais. Et du coup, à 3 ans, je crois, j'ai eu un blocage de langue. Du coup, je comprenais pas grand-chose. C'était compliqué un petit peu parce que j'arrivais pas à parler des deux langues en même temps. Et maintenant, bah, j'arrive parfaitement à parler. Et après, bah, papa, c'est Borbé et maman, c'est Mamé.
Mes parents, ils parlaient qu'en lingala. Mais quand on parle en lingala, il y a des mots en français. Et du coup, j'ai appris directement le français. Je parle pas lingala, mais je comprends. C'est bien parce que si, par exemple, on allait dans l'autre pays, on saurait parler.
Imaginons que je rentre au collège, bah, j'ai une amie qui est du même pays que moi, donc si quelqu'un veut comprendre ce qu'on dit, bah, ils vont pas comprendre parce qu'on parle nous deux de la même langue. Donc mes tontons, ils m'ont dit que c'était bien. C'est bien parce que si tu parles wolof, tu pourras dire à tes amis s'ils parlent wolof, bah, des petits secrets, parler ensemble pendant des heures comme nous on fait.
Après, bah, quand je vais devenir grand, bah, j'espère voyager dans tous les pays.
Tu veux parler combien de langues en tout ?
9 langues.
Moi, genre 5 langues ou 4, ça me suffit. Moi, je sais pas trop, mais je voudrais apprendre toutes les langues parce que mon métier, ça consiste à ça. Mon futur métier que je voudrais avoir, c'est hôtesse de l'air. Donc si tu veux être hôtesse de l'air, il faut que tu apprennes les langues.
Voilà, la vérité sort de la bouche des enfants. Alex de Carvalho, que vous évoque tous ces témoignages ?
Beaucoup de choses. Une chose qui m'a particulièrement frappée, c'est qu'ils se souviennent tous des petites périodes de gazouillage, de babillage, des tout premiers mots et à quel point c'était difficile quand même de les prononcer. Mais ils ne se rendent pas compte forcément des mécanismes qu'ils ont utilisés pour apprendre.
Oui. Oui, on a l'impression, hein, Laurence Rameau, que ça a été très long, très compliqué d'apprendre à parler et qu'ils ont démarré de presque rien, du are, da-da-da, et que ça a été laborieux, hein, c'est ce qui ressort.
Oui, mais en même temps, ils parlent aussi de jeux. Moi, ce que je remarque, c'est qu'en fait, ils parlent de chansons, de comptines, de comment ça les a amusés, et que finalement, cette idée de jeu, de jouer avec la langue, est importante dans leur petite enfance. Ouais. Puis je crois aussi qu'ils retracent que leurs parents leur ont raconté de la manière dont ils ont appris à parler, et puis aussi de l'utilité de la langue, c'est-à-dire ça sert à parler avec les autres. Moi, je trouve qu'ils sont très, très intéressants de ce côté-là.
Ouais. Alex de Carvalho, le bébé, en fait, il vit d'abord dans un monde de sons et pas de mots.
Si on pense à la période avant la naissance, une fois que le fœtus a déjà la capacité à entendre, hein, que l'appareil auditif est déjà en place, les bébés peuvent entendre peut-être ce que nous, on pourrait entendre quand on est au fond d'une piscine et qu'on entend des personnes qui parlent à l'extérieur. Donc, c'est juste un petit contour d'intonation. Donc, on entend... Et effectivement, on sait que dès la naissance, ils montrent déjà une familiarité avec ces contours-là. Donc, si, par exemple, on présente au bébé deux types de sons différents, par exemple, des phrases qui sont prononcées en anglais ou des phrases qui sont prononcées en français, on a tendance à voir qu'ils ont une préférence déjà pour les phrases françaises.
Mais ça veut dire que des bébés distinguent déjà différentes langues ?
Sur la base de l'intonation.
Oui.
Donc, ce n'est pas vraiment une perception très précise, mais ils reconnaissent les contours d'intonation de ces phrases-là.
Un message d'Assouman qui est à Tawa, au Niger. Il nous dit « Pour échanger avec les petits-enfants de mes frères, moi j'utilise les gestes si l'enfant ne sait pas parler, comme par exemple en lui souriant. La communication non-verbale, est-ce que c'est le prémisse de la communication verbale ou ça doit se faire ensemble, même si l'enfant ne parle pas ?
Ça se fait ensemble. C'est rare qu'on commence juste à faire des gestes sans jamais parler à un enfant.
Les parents souvent disent « mon enfant ne parle pas, mais il comprend tout ».
Oui, et c'est normal. Donc en fait, on sait que la compréhension du langage, elle précède la production. Il ne parle pas pendant la première année de vie, tout simplement parce que l'appareil phonatoire n'est pas encore complètement développé pour leur permettre d'articuler les sons. Mais ils ont déjà la capacité à percevoir les mots. Donc on sait qu'à 6 mois, les bébés ils connaissent déjà des mots comme « main », »,« cheveux » ou « gâteau » ou « biberon ». Donc ce sont des mots très fréquents dans leur environnement. Donc c'est souvent des mots que les mamans utilisent. Bon, maman et papa aussi, hein. Ouais. Par ailleurs, le prénom du bébé. Donc c'est des mots qui apparaissent tous les jours ouais. dans leur quotidien.
À 6 mois, un bébé reconnaît son prénom.
Il reconnaît son prénom.
Ouais. Y a des expériences hein, où un bébé de 12 mois, on lui montre un ballon, une chaussure, et on prononce le mot
on
ballon.
Il regarde le ballon.
Il regarde le ballon.
Il regarde le ballon.
Il
même s'ils
ne
sont pas capables de dire ces mots encore.
Ouais. Comment les scientifiques, globalement, observent les réactions du bébé au son, aux mots ? Comment on travaille ?
Alors, de plusieurs façons différentes, mais toujours en utilisant le comportement naturel de l'enfant. Donc, ça peut être la succion de la tétine.
Ouais.
C'est une information que nous avons.
Ah oui ?
Le regard du bébé. Donc, dans beaucoup de recherches, on va mesurer où est-ce que le bébé regarde au moment où on prononce des mots ou des phrases. Et on interprète ça comme étant un indice de leur capacité à comprendre ce qu'ils ont entendu. Donc, ouais. par exemple, si on montre 2 petites images dans un écran, et, par exemple une pomme et une banane, et qu'on dit au bébé « Oh, regarde la pomme », si ses yeux commencent à regarder plus souvent l'image de la pomme plutôt que celle de la banane, on va dire « Cet enfant » a compris ces mots-là.
Et c'est la même chose pour la tétine ? Il y a une succion qui se déclenche ?
Alors la tétine, la succion non nutritive, donc celle que le bébé fait spontanément et ouais. pas parce qu'il a envie de manger, on interprète ça comme étant un indice attentionnel. Donc par exemple, on sait que les bébés, dès qu'ils entendent quelque chose qui est nouvel pour eux, ils vont se mettre à téter la tétine plus fortement que s'ils sont déjà habitués à une certaine information. Et donc, c'est une expérience comme ça, par exemple, qui a permis à des scientifiques de vérifier qu'à la naissance, parce qu'à la naissance, les bébés sont déjà capables de téter, ils avaient déjà une préférence pour le français plutôt qu'une langue étrangère s'ils sont nés en France, hein, ou en tout cas de parents qui parlaient français déjà.
Vous nous disiez, Alex de Carvalho, qu'un bébé, il a la capacité de reconnaître les sons de différentes langues. Mm-hmm. Mais s'il n'a qu'une seule langue, il ne grandit qu'avec mm-hmm. une seule langue. Mm-hmm. Cette capacité se perd à quel âge ?
Alors, donc souvent, ça peut être un petit peu débattu, mais c'est souvent entre 6 et 9 mois.
Ah, oui.
Les bébés commencent déjà à devenir experts des sons qui existent dans leur langue maternelle. Et ils vont laisser tomber la capacité à percevoir des sons qui n'existent pas, parce
d'accord.
que ce sont des invariants.
Ils perdent une capacité à reconnaître d'autres langues entre l'âge de 6 et 9 mois. C'est assez incroyable. Comment les bébés reconnaissent les mots séparés dans une phrase ? Si on dit à un bébé « regarde la belle poule », si on prend du recul, ça peut ressembler qu'à un seul mot, puisque on ne prononce pas la phrase en disant « regarde la belle », on ne va pas parler
comme
ça au
bébé. Il n'y a pas de petite pause, exactement.
Non.
Et donc, pour faire ce qu'on appelle le découpage de la parole en mots, donc les bébés ils peuvent utiliser plusieurs indices. Donc, tout à l'heure, je vous disais, le bébé il reconnaît déjà son propre prénom. Donc ça peut servir comme un indice déjà. Donc tous les mots qui vont apparaître après, je ne sais pas, Axel, s'il s'appelle Axel.
Ouais.
Donc il va dire, ah, ça c'est un mot différent. Ça ne va pas avec Axel. Donc Axel, tu. Donc peut-être que tu, c'est déjà un autre mot.
Ah oui.
D'accord. Donc ça, c'est un indice. Là, on appelle les statistiques. Donc le bébé, il reconnaît la fréquence d'apparition de certains mots. Et donc, par exemple, dans toutes les phrases qu'on prononce, souvent, on observe ces mots qu'on appelle des mots grammaticaux, donc les articles, les pronoms. Donc souvent, on va dire « tu veux quoi ?»,« qu'est-ce que tu veux, on va manger, et là, il a tu, il a on.
Et il sépare, il trie tous les mots.
Exactement.
Incroyable donc, logiciel peut... à 6 mois.
Exactement, c'est des bébés humains, hein. Donc c'est... ils sont extrêmement puissants. Comme
Laurence Rameau, alors quelle est la place du langage à la crèche, c'est-à-dire entre 0 et 3 ans?
Ben, ça tient une grande place parce que les professionnels ont bien compris que, comme on le disait, c'est pas parce qu'ils ne parlent pas la première année et puis quelquefois la deuxième année, parce qu'il y a des enfants qui ne parlent pas tout de suite, qu'ils n'apprennent pas à parler. C'est-à-dire que vraiment, c'est dans cette période-là, on le sait, que les enfants vont apprendre. Donc du coup, à la crèche, on va orienter les professionnels à réellement beaucoup communiquer avec les jeunes enfants, beaucoup parler et puis aussi faire beaucoup de jeux de langage.
Par exemple,
ah ben, tous les jeux de langage, ce sont les jeux qui tournent autour des livres, principalement, bien sûr, mais aussi les marionnettes, les histoires, les imagiers, les comptines, les chansons. On va beaucoup varier de jeux de langage pour permettre à l'enfant de jouer justement avec sa langue et d'y prendre plaisir.
Ouais, notamment les comptines, où on fait des gestes en même temps pour...
Oui, dans les comptines, donc on a des comptines, on a tout un répertoire de comptines et de chansons d'enfants de cet âge-là, où les gestes sont appuyés avec la parole et puis aussi avec des mouvements du corps, parce que le bébé, il apprend aussi avec tout son corps à cet âge-là. Et donc, ce sont des vrais moments de plaisir où tout le monde va chanter, bouger, faire des gestes. Et les tout petits qui sont à côté des enfants qui sont déjà un tout petit peu plus grands, qui vont avoir 2-3 ans, écoutent, regardent et puis imprime ce qui se passe autour d'eux.
Que se passe-t-il pour les enfants? La plupart d'ailleurs ne prononcent pas correctement, directement le mot, sauf si c'est papa, maman et encore. Hein, le maman, c'est souvent maman.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe à la crèche? Est-ce qu'on corrige? Est-ce qu'on leur dit? Quelle est l'attitude?
Non, on a bien compris en fait que l'apprentissage du langage, c'était un apprentissage implicite. C'est parce que l'enfant est baigné dans ce langage, parce qu'on parle avec lui, qu'il va apprendre à parler. Donc ça ne sert à rien de lui dire « non, c'est pas bien, tu as mal prononcé, tu n'as pas dit maman correctement » ou alors dire « répète maman, maman », etc. C'est pas du tout comme ça qu'il apprend. Donc en fait, on reprend ce qu'il a dit en disant « bah oui, tu parles de maman, bah, tu as raison de parler de maman » et on va valoriser ce qu'il a dit et reprendre la phrase correctement. Et c'est comme ça qu'à force, il va l'imprimer correctement dans son cerveau.
Ne pas faire répéter un enfant lorsqu'il n'a pas prononcé correctement.
Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est pas parce qu'il l'a prononcé de façon erronée qu'il n'a pas la bonne perception du mot. Donc ça arrive déjà et je me souviens, ma petite cousine une fois, elle a dit on va à la playa et j'ai dit bah non, on va à la plage et elle a dit oui, on va à la playa et après j'ai dit bah tiens, on va à la playa et elle dit non, on va à la playa et c'est exactement la même chose mais ça veut dire que dans sa tête, elle a la bonne forme de ce mot-là, même si pour des raisons... phonatoire, elle ne peut pas encore articuler correctement.
Laurence Rameau, depuis...
C'est pour ça qu'il...
Oui, je vous en
C'est
prie.
Pour ça qu'ils comprendraient. Ils ne comprendraient pas qu'on leur dise que ça ne va pas, que ce n'est pas bien
ou
qu'ils doivent répéter.
Ouais. Laurence Rameau, depuis plusieurs mois, dans les crèches, le personnel est obligé de porter un masque. Qu'est-ce que ça change dans la relation avec les enfants pour l'acquisition du langage?
Alors au début, ça nous a fait très peur, tous les professionnels de la petite enfance, parce qu'on s'est dit, il faut absolument que les enfants regardent aussi notre bouche, la manière dont on place nos lèvres dans la prononciation, et que du coup, ils vont avoir, en fait, ils vont être amputés d'une partie du visage au niveau visuel, et que ça va créer des soucis. Et à l'usage, on a tous été étonnés de voir ces enfants être totalement en capacité de comprendre ce qu'on leur disait sans voir nos lèvres. Et avec nos yeux. Ils savaient quand on leur souriait, ils savaient quand on communiquait avec eux, ils savaient quand on leur parlait ce qu'on leur disait. Et ça, c'est vraiment une découverte, en fait.
Est-ce qu'on
a des... qu'en étant proche des enfants, on a réussi ce qu'on ne pensait pas, c'est-à-dire à comprendre qu'ils apprennent aussi à parler, parce qu'on a continué à chanter, on a continué continuer à faire les gestes, et bien qu'ils apprenaient tout aussi bien les chansons, finalement, avec le visage masqué.
Et en plus, depuis l'arrivée de la pandémie, il y a de nouveaux bébés qui sont arrivés en crèche et qui ne connaissaient pas ces éducatrices. Hein. Donc, ils ont fait connaissance avec des éducatrices dont ils n'ont jamais vu pratiquement le visage, sauf lorsque l'éducatrice enlève son masque pour boire, par exemple. Hein.
Elle ne boit pas souvent devant les enfants. Oui. En fait, on a quand même enlevé le masque pour se présenter. En fait. On a incité les professionnels à tout de même enlever le masque quand l'enfant était dans les bras des parents pas trop près, à dire qui elles étaient et à sourire à l'enfant pour le rassurer. Mais en le remettant, c'est vrai, les enfants ont appris à connaître ces professionnels-là. Et mettre le masque et enlever le masque, ils voient tout à fait la différence, mais on a pas le sentiment que ça les insécurise ou que ça les empêche d'apprendre.
Alex de Carvalho, est-ce qu'il y a une explication scientifique à cela ?
Oui, alors, donc ce qu'il faut savoir, c'est que pendant longtemps, les scientifiques pensaient que, par exemple, les enfants aveugles, qui n'ont pas accès à aucun signe du visage ni rien, auraient un retard d'acquisition du langage. Et on sait que ce n'est pas vrai. Donc, ils apprennent tout aussi vite et la même quantité de mots à peu près en même temps que les enfants voyants. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas si surpris que ça, qu'ils arrivent toujours à comprendre. Après, on sait que, bien sûr, pouvoir intégrer les deux modalités d'information, donc la parole et les gestes, ça aide, ça facilite l'interprétation de certaines phrases. Et donc, mais la machine est capable de détecter la parole et donc de faire des apprentissages sur la base de ce qu'on entend.
Vous restez avec nous, Alex de Carvalho et Laurence Rameau. Comment les enfants apprennent à parler ? Quel rôle aussi pour les parents ? On va parler des différences d'un enfant à l'autre. Est-ce que, par exemple, les filles apprennent à parler plus tôt que les garçons ? C'est l'occasion, en tout cas, vous qui nous écoutez, les voisins et les voisines, de poser toutes vos questions à nos invités au 33 7 64 45 51 41.
Je m'élance et je danse en silence, si langoureusement qu'on me pense bien plus longue et plus lente qu'une transe à mille temps. Souple, je suis souple. Quand je flanche, je me planque et je mange une mangue.
Chez 7 milliards de voisins sur RFI qui sait manier la langue comme personne. Comment le langage vient aux enfants ? Très simplement, nous dit Alex de Carvalho, les enfants, les bébés ont vraiment un logiciel qui est fait pour acquérir très facilement une langue et voire plusieurs langues sans aucun problème. On en discute donc avec vous, Alex de Carvalho. Vous êtes spécialiste du sujet, chercheur en sciences cognitives et maître de conférences en psychologie du développement à l'Université de Paris. Et Laurence Rameau, vous êtes puéricultrice, formatrice de professionnels de la petite enfance. Vous avez publié « Comprendre son bébé » et vous nous parlez de, plus spécifiquement de tout ce qui se passe en crèche, un lieu extrêmement riche pour tous les apprentissages des bébés. Vous nous appelez bien sûr, les voisines et les voisins, au 33 7 64 45 51 41. On prend Marlise qui est à Yaoundé, au Cameroun. Bonjour Marlise, soyez la bienvenue chez 7 milliards.
Merci Emmanuel, bonjour à vous. Bonjour à tous en studio.
Alors, vous souhaitez nous poser une question à propos de votre petit garçon de 2 ans, c'est ça?
Oui, il a 2 ans, 8 mois exactement.
Oui.
Il ne veut pas parler. Je dis, il ne veut pas parler parce que, en fait, lorsqu'on lui demande de répéter un mot, il sourit et il baisse la tête. Par contre, il est capable de reproduire tous les sons qu'il entend, mis à part les mots. C'est-à-dire, par exemple, des interjections, il va les répéter. Mais lorsqu'on demande de répéter un mot, il ne le fait pas. Je voudrais préciser également qu'il dit papa, maman, tata depuis plus d'un an.
Oui.
Mais depuis là, son vocabulaire n'a pas évolué. Il est très éveillé, par contre. Il est très éveillé et il s'exprime essentiellement avec des gestes et des sons de son propre langage.
Alex de Carvalho.
Alors, donc, ce qu'il faut savoir pour tous les auditeurs, c'est que se mettre à parler peut mettre plus ou moins de temps en fonction des enfants et en fonction de leur environnement, donc combien de langages ils entendent dans le quotidien. Donc, souvent, il y a des enfants qui peuvent commencer à parler très tôt, avant même l'âge de 2 ans, et d'autres qui vont se mettre à parler plus tard, presque vers l'âge de 4 ans. D'accord. Donc, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Si tout va bien, si on a l'impression que l'audition va bien et que l'enfant arrive quand même à nous comprendre, ce n'est pas parce qu'il ne parle pas comme les adultes déjà qu'il a forcément un problème. Donc, au début de la question, je me posais la question sur l'audition. Est-ce qu'il entend bien? Mais elle a l'air de dire que oui, parce qu'il prononçait déjà papa et maman, et il répète des sons. Donc moi, ce que je peux conseiller comme méthode, c'est peut-être de le mettre dans des conditions où il aura vraiment le besoin de parler. Par exemple, est-ce qu'il communique avec ses petits copains, ses petites copines quand il joue?
Est-ce qu'il joue avec d'autres enfants, votre fils?
Oui, il joue avec d'autres enfants. Il y a un mois de cela où je l'ai inscrit dans une crèche également.
Oui.
Apparemment, il n'y a pas de problème de communication au niveau de la crèche. Je voudrais également préciser qu'il n'a effectivement aucun problème d'audition et de compréhension. Mm-hmm. Je lui parle en langue maternelle et en français et il comprend très bien ce que je dis dans les deux langues.
Ah oui, d'accord. Et quand il joue avec d'autres enfants, est-ce que vous avez pu observer discrètement comment il arrive à se faire comprendre des autres enfants?
À la maison, j'ai observé, je n'ai pas vu de changement, mais à l'école, je n'ai pas l'occasion d'être avec lui.
Oui. Laurence Rabeau, il y a des enfants comme ça qui, à la maison, vont peu s'exprimer, et puis à la crèche, quand il s'agit de récupérer absolument un jouet, ils vont savoir comment s'exprimer?
Oui, puisque j'entends de cette maman là, c'est ce que vous dites, c'est que votre fils est très éveillé et qu'il sait très bien se faire comprendre et qu'il
compose.
Voilà, et qu'il comprend tout, donc je pense que c'est très rassurant. Et puis, en fait, il y a certains enfants qui n'aiment pas trop qu'on les place dans une situation de perroquet, c'est-à-dire de devoir répéter des mots, parce qu'ils ne comprennent pas à quoi ça sert. Donc, je pense qu'en étant tout à fait naturel et en parlant avec lui, et en le mettant dans une situation où voilà, il serait peut-être obligé de parler pour demander des choses, ou même des fois se dire « bon, ben, je ne comprends pas ce que tu veux », parce que ça peut être la réalité », eh bien, il va commencer à se dire que dire des mots, ça a une utilité. Et puis, donc, du coup, il va les dire. Mais voilà, c'est plus intéressant pour lui que de devoir répéter des choses qu'on lui demande de répéter pour vérifier qu'il a du vocabulaire, en fait.
C'est exactement ça.
Marlise, vous êtes rassurée, alors ça y est, vous avez une feuille de route là.
Oui, merci, je suis un peu plus rassurée. C'est vrai qu'avec son frère, il avait eu pratiquement le même problème, mais il avait parlé un peu plus vite. C'est-à-dire que lui-même s'était rendu compte de ce qu'il fallait qu'il colle les mots aux gestes ou aux sons pour pouvoir se faire comprendre. Il était arrivé au stade où il s'était rendu compte qu'il fallait effectivement qu'il apprenne à parler. Et qu'il a commencé à enrichir progressivement son vocabulaire. C'était ça l'expérience avec son frère aîné. Mais celui-ci met un peu plus de temps. Même quand on gronde, même quand on va doucement, il ne veut pas s'y mettre du tout.
Et donc, c'est aussi un enfant qui est en train d'apprendre 2 langues.
Oui, c'est ça.
À la maison.
Hein, c'est un enfant qui apprend 2 langues en même temps, on est d'accord, hein, Marlise?
Je ne pense pas que ça devrait être un problème.
Non,
c'est pas du tout un problème,
non,
mais ça peut
mais
juste expliquer. Voilà, comme il a
formidable.
Le double boulot à faire, donc qu'il mette un peu plus de temps que d'habitude pour commencer à parler.
D'accord.
Voilà, pas d'inquiétude donc. Hein. Tout ça peut se mettre en place jusqu'à l'âge de 4 ans, nous disiez-vous, hein, Alex de Carvalho. Très bonne journée à vous, Marlise. On accueille Yvonne qui
Merci
est
beaucoup.
Merci à vous. Yvonne est à Pointe-Noire, au Congo-Brazza. Bonjour Yvonne.
Bonjour Emmanuel. Bonjour, c'est Niard de Voisin.
Bonjour.
Bonjour.
Vous avez une fille de 19 mois.
Oui, j'ai une fille de 19 mois.
Oui.
Alors, elle a 19 mois. Elle s'appelle Louise Christen. Elle est très éveillée, mais seulement, elle... elle ne parle pas comme je voudrais qu'elle parle par rapport à son âge. Donc, elle peut dire papa, elle peut dire... Elle a dit papa, c'était le premier mot, en fait. Elle a dit maman, quand une de ses petites cousines est arrivée à la maison, on va dire il y a un mois à peu près,
ouais.
La petite cousine disait tout le temps maman, maman. Donc, elle a lancé maman comme ça, mais c'était vraiment bien tard. Elle sait dire...
Bien tard quand même.
Oui, mais parce qu'elle a dit papa depuis des siècles. Mais maman est arrivée vraiment bien tard.
Ouais.
Elle sait dire prends, laisse, donne, non.
Mais c'est super.
Ouais. Ouais, c'est génial. Donc tout va bien.
Mais à 19 mois, c'est. Enfin, on me dit qu'en principe, à 19 mois, elle devrait déjà construire des phrases.
Ouh là 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 là, attendez, attendez, vous n'avez pas bien écouté Alex de Carvalho. Hein. Alex de Carvalho, redites-nous à 19 mois ce que nous raconte Yvonne.
Oui, donc à 19 mois, tout ce qu'elle dit déjà, j'ai entendu des noms, des verbes, donc c'est super, tout va vraiment bien. Et il n'y a pas, encore une fois, de règles explicites sur à quel âge précisément ils doivent commencer à dire des phrases. Donc on dit souvent que c'est vers l'âge de 2 ans, donc ça
D'accord.
pourrait être vers 19, ouais. 20 mois,
il
24,
28. Il reste
5
mois, c'est très très long, hein, 5
voilà.
mois
et donc,
en plus.
Et c'est pas sûr que ça sera à 24 mois pile, donc ça peut être un peu plus tard. Comme on disait tout à l'heure, l'autre...
ça peut être 3 ans, ça peut être 4 ans pour tenir
Exactement.
Une vraie conversation, c'est ce que vous nous disiez. Laurence Rameau, hein, vous êtes familière de l'inquiétude des parents qui disent elle ne parle pas comme je voudrais qu'elle parle à 19 mois.
Oui, oui, c'est vraiment tout à fait ça que je retiens, c'est-à-dire qu'il y a un désir parental tout à fait légitime d'avoir envie qu'un enfant parle très bien, très vite, mais en fait, c'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est qu'il comprenne bien tout ce qui se passe autour de lui, qu'il comprenne les mots, qu'il comprenne les phrases qu'on lui adresse. Et là, elle semble comprendre tout, cette petite fille. Pour autant, en fait, les mots, ils vont sortir après. Et on se rend compte qu'à un moment donné, il y a ce qu'on appelle une explosion du vocabulaire. Tout d'un coup, ils vont dire plein de mots très, très vite. Et on est complètement sidéré qu'ils en disent autant.
D'accord.
Et parce qu'ils les ont appris avant, mais ils les disent plus tard.
Et donc, encore une fois, Yvonne, votre fille, elle entend une autre langue à la maison, voire d'autres langues au pluriel, je ne sais pas.
Alors, chez moi, à la maison, la langue la plus parlée, c'est le français.
Oui.
N'empêche qu'il y a une langue à côté, mais on ne la parle pas à la maison. C'est la langue d'ici, le Koutouba, mais on ne la parle pas à la maison, en fait.
Elle, oui.
Je ne pense même pas qu'elle ait
Oui, mais peut-être que vous avez une personne à la maison qui vous aide et qui parle le Koutouba et que votre fille entend aussi ces sons-là et cette langue-là. Donc, ce n'est pas que ça crée du désordre, hein, c'est juste que ça va se mettre en place un tout petit peu plus tardivement. C'est ce que nous expliquait Alex de Carvalho et c'est une grande richesse aussi, ça.
Alors, une question en passant. Ici, chez nous, la culture, les mamans disent que pour aider l'enfant à mieux parler, il faut donner le sel.
Donner du sel ?
Et donc, oui, du sel. En fait, voilà, ils me disent, mais il faut mettre du sel dans sa bouche, une petite quantité, évidemment, ou des grains de sel dans sa bouche, ça aide les enfants à vite parler et mieux parler.
Alex de Carvalho ?
Pour qu'ils disent qu'ils n'aiment pas.
Ah oui, parce qu'on attendrait peut-être une réaction. Donc,
non, il
n'y
a pas,
il
y a pas, de, non, il y a pas
de
preuves scientifiques comme quoi mettre du sel va faire parler un enfant.
Il y a beaucoup de croyances hein, autour de l'enfance et c'est bien normal. Justin nous appelle également au 33 7 64 45 51 41. Merci à vous Yvonne. Justin, vous êtes en ligne avec nous.
Bonjour Emmanuel Bastide, bonjour les voisins et les voisines.
Justin, vous êtes à Bukavu, vous avez une question précise.
Oui, ma question était de savoir comment est-ce que les parents sourds parviennent à apprendre à leurs enfants à parler alors qu'eux-mêmes ne savent pas parler.
Vous parlez
ils adoptent pour développer les langages de leurs enfants.
Vous parlez de parents sourds qui s'expriment uniquement en langage des signes, hein, c'est ça?
Oui, oui.
D'accord. On a aussi une question de Casimir Okai en Haïti qui dit « Est-ce que c'est un problème pour un bébé d'apprendre à parler si sa maman est sourde ?»
Alex de Carvalho. Si elle parle la langue des signes, pas de problème. La langue des signes, c'est comme une langue orale. Elle a une structure, elle a des mots, elle a des contours comme si c'était des sons. Et l'enfant est tout à fait capable, donc le petit logiciel dont on parlait tout à l'heure, il est tout à fait capable d'extraire les informations de cette modalité-là de langage, la langue des signes, pour apprendre à parler aussi. Et par ailleurs, il y a des études qui montrent que voilà, c'est à peu près au même rythme qu'un enfant peut apprendre la langue des signes.
Est-ce qu'on a répondu à votre question, Justin ?
Oui, on a répondu, mais j'ai une autre question.
Oui, allez-y.
Est-ce que l'entourage a-t-il une grande influence sur le langage d'un enfant? Par exemple, si un enfant est grandi avec des origines françaises et qu'il est entouré de voisins qui parlent seulement swahili, par exemple, laquelle de ces deux langues sera plus développée par le cerveau de l'enfant?
Oui, c'est une très bonne question. Merci Justin de l'avoir posée parce qu'on a beaucoup de questions à ce sujet, au sujet du multilinguisme, etc. Alex de Carvalho.
Donc, s'il y a une langue à la maison, une autre langue dans l'environnement, si l'enfant est exposé, bien sûr, à ces deux langues, il n'aura aucun problème à les apprendre.
Mais donc, laquelle va prendre le dessus?
Alors, souvent, on dit, avant que l'enfant sorte de la maison, c'est la langue parlée par les parents. Mais plus tard, effectivement, quand il va à l'école, si cette langue devient plus fréquente pour eux, ils risquent de se mettre à parler dans cette langue-là. Après, tout dépend, est-ce que les parents comprennent cette langue à la maison? Si le bébé se rend compte que oui, c'est une stratégie beaucoup plus efficace de parler que cette langue-là, même s'ils sont capables de comprendre les deux.
Oui. Et il y a une question justement d'un auditeur qui est au Togo, qui nous demande, il est professeur d'histoire géo, il nous dit « La langue maternelle, est-ce que c'est la langue des parents ou c'est la première langue apprise par les enfants ?» Sous-entendu, ça pourrait être la langue de la nounou, par exemple.
Tout dépend de combien de temps passe la nounou avec l'enfant. C'est très rare qu'une personne extérieure, que les parents, passe plus de temps avec les tout petits bébés.
Ouais. Merci en tout cas, Justin, de nous avoir appelés. Vous pouvez continuer de nous téléphoner au 33 7 64 45 51 41. On essaye un peu de comprendre, de décortiquer les mécanismes d'acquisition du langage chez les bébés, chez les enfants. Est-ce que les filles et les garçons, il y a une différence? Qu'est-ce que vous observez, Laurence Rameau, à la crèche, entre les filles et les garçons?
Moi, j'en observe pas. Donc, je pense que ça, c'est vraiment une légende, ou peut-être ça existait à une certaine période, mais aujourd'hui, où on accueille les enfants, filles et garçons, exactement de la même façon, où ils jouent exactement au même jeu, eh bien, on a des enfants, garçons qui sont des pipelettes et des filles qui parlent très peu, et l'inverse aussi. Donc, non, je vois pas.
Une question de Béranger qui est un futur papa. Son épouse est enceinte de 7 mois. Il nous dit « Moi, je parle au ventre et j'observe des mouvements du bébé. Est-ce que ça favorise son apprentissage du langage ?»
Ça favorise dans le sens où ça permet au bébé déjà de percevoir le contour d'intonation, donc de sa langue ou de la langue qu'il va venir à apprendre.
Qu'est-ce qui se passe pour les parents, pour les enfants plutôt, dont les parents parlent très peu? Une maman qui ne communique pas avec son enfant, pour une raison ou pour une autre, qu'est-ce qui se passe?
Il apprend moins de choses.
Il apprend moins de mots, il va parler plus tard, il va parler plus difficilement.
Il peut parler plus tard, il peut avoir des difficultés quand il va à l'école pour comprendre ce qu'il dit la maîtresse, parce que la plupart des mots, il ne comprend pas, il n'a pas entendu avant.
Ouais. C'est le mythe de l'enfant sauvage qui a grandi tout seul dans la forêt.
Alors ça, c'est encore plus compliqué à expliquer. Mais effectivement, un enfant à qui on ne parle pas beaucoup ne peut pas apprendre autant qu'un enfant à qui on parle beaucoup. Et donc, c'est tout le sujet des inégalités dans la question du langage.
Laurence Rameau.
C'est pour ça que dans des familles où on parle très peu, pour quelle que soit la raison, ce n'est pas le problème, la raison, mais de se dire que ces enfants-là, c'est toujours bénéfique qu'ils fréquentent la crèche ou une assistante maternelle ou un mode d'accueil où justement on va beaucoup plus parler. Ça réduit en fait les inégalités avant d'entrer à l'école.
Ouais. Une question de Mohamed qui a 27 ans, qui est à Port-Gentil, au Gabon. Ça c'est pour vous Alex de Carvalho. Il dit « J'ai passé mon enfance à voyager. J'ai d'abord parlé à Oussa avec ma mère, d'autres langues comme le français, l'arabe et depuis je ne me souviens plus de l'Aoussa, qui est donc sa langue maternelle, puisque c'est la première langue qu'il a parlé avec sa maman. Il demande pourquoi.
Parce qu'il n'a plus jamais utilisé. cette langue. Donc, il y a une langue qui a pris le dessus. C'est cette langue qui est devenue la plus fréquente, la plus utilisée depuis. Il y a beaucoup de cas, par exemple, des enfants adoptés. Donc, qui ont d'abord eu une famille dans un pays étranger et qui après ont été amenés à déménager avec une autre famille. Et eux aussi, ils oublient la langue qu'ils parlaient avant.
Une dernière question. Est-ce qu'une maman qui ne sait ni lire ni écrire est moins à même de parler à son enfant, Laurence Rameau, qu'est-ce que vous observez ?
Non, je ne crois pas que... Enfin, on peut ne pas savoir lire et écrire et on sait tout à fait parler. Donc, je pense que ce n'est pas du tout le problème. Et encore une fois, donc, cette maman, elle va parler tout à fait normalement avec son enfant. Donc, il va, lui, entendre le langage et puis entendre du langage aussi avec les autres professionnels qui seront autour de lui quand il va être tout petit. Donc, il va apprendre à parler tout à fait normalement.
On a entendu, hein, pour résumer un peu tout ce qu'on s'est dit pendant cette émission avec ces très nombreuses questions d'auditeurs, d'auditrices, on a entendu... souvent quand même l'inquiétude des parents, plus ou moins justifiée, voire pas justifiée du tout. Les parents ont envie que leurs enfants parlent, c'est normal. Mais alors finalement, dans quel travers il ne faut pas tomber ? Redonnez-nous les conseils essentiels, Laurence Rameau, pour faciliter l'acquisition du langage, qui encore une fois est une acquisition qui se fait naturellement.
Oui, voilà. Je crois que le premier travers dans lequel il ne faudrait pas tomber, c'est de penser qu'on apprend à parler à son enfant. En fait, il apprend à parler dans l'environnement dans lequel il est. Et donc, nous sommes dans l'environnement, nous, les parents. Et donc, nous parlons. Et c'est pour ça qu'il apprend à parler. Mais il n'y a pas nécessité d'avoir une attitude spécifique au niveau du langage pour qu'il apprenne à parler ou, encore une fois, de lui faire répéter le langage pour qu'il parle. Par ailleurs, plus on va utiliser, évidemment, des jeux de langage, comme je disais tout à l'heure, ou des livres dans lesquels les enfants participent.
Oui. Des livres avec, alors, des livres avec des images, hein, bien sûr, pour les bébés.
On a des petits, des imagiers, et puis des petites histoires aussi, des livres avec des petites histoires très, très courtes. Mais il ne faut pas penser qu'un livre sert uniquement à endormir les enfants le soir, à raconter une histoire qui endorme les enfants le soir. Le livre, ça sert aussi à permettre à l'enfant de participer à son apprentissage, à savoir ce qui se passe, donc à éveiller, c'est-à-dire de demander à l'enfant, mais qu'est-ce qui se passe dans ce livre-là ? Raconter un peu l'histoire, quelle page tu as aimée, etc., qu'ils vivent les choses, rendre le livre intéressant pour que l'enfant comprenne bien que les histoires, les mots et ce qui se passe dans le livre, c'est intéressant.
Eh bien, merci en tout cas à tous les deux. Laurence Rameau, puéricultrice, formatrice de professionnelle de la petite enfance. Vous avez publié « Comprendre son bébé » aux éditions First. Et merci à vous, Alex de Carvalho, chercheur en sciences cognitives et maître de conférences en psychologie du développement à l'Université de Paris. Vous êtes facilement mis à la portée des auditeurs parce que vous êtes bilingue, né dans une autre langue, le brésilien, et vous travaillez maintenant en français et en anglais en tant que chercheur. Merci à tous les deux. Dans quelques instants, on retrouvera Marie-Rose Moreau, pédopsychiatre. Comment devenir des parents ordinaires ici et dans le monde ? Dans quelques secondes, on l'a au téléphone.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, bienvenue.
Et nous retrouvons la pédopsychiatre Marie-Rose Moreau. Bonjour.
Bonjour.
Marie-Rose Moreau, on est ravie de vous retrouver. On a eu le plaisir pendant plusieurs mois d'accueillir vos chroniques, parents, enfants d'ici et d'ailleurs, chez 7 milliards de voisins, avec des conseils pour les parents. Et de là est né un livre en partenariat avec RFI, 50 questions sur les bébés, les enfants, les adolescents, comment devenir des parents ordinaires, ici et dans le monde, aux éditions La Pensée Sauvage. Vous êtes partie de situations finalement de la vie quotidienne, hein, et surtout de toutes les questions que se posent les parents.
Oui, tout à fait. Oui, c'est avec grand plaisir que je reviens à RFI pour parler effectivement de toutes ces questions que les parents se posent au quotidien et partout dans le monde, même si parfois les réponses diffèrent un petit peu, mais en réalité les questions sont toujours les mêmes. C'est au fond comment on fait pour bien accueillir un enfant, donc pendant la grossesse, des tas de questions qui peuvent se poser. Et puis même lorsque les enfants n'arrivent pas, on se pose des questions. Ensuite, les enfants, ils sont là, comment on les allaite, comment on leur parle, ce dont vous parliez tout de suite, quelle langue, à quel moment, de quelle façon. Des questions aussi concrètes, d'ailleurs, que là aussi que je viens d'entendre sur est-ce que si on ne sait pas lire et écrire, eh bien, on peut parler à nos enfants et ça leur fait du bien. Et oui. Et la langue maternelle fait du bien, la langue qu'on parle aux enfants fait du bien. Et il faut leur parler le maximum et les gens autour pour qu'ils aient envie de parler. Mais après, se posent d'autres questions sur comment on leur fait passer des valeurs, comment on les éduque, comment on les fait grandir. Est-ce qu'ils doivent dormir dans notre lit? Et puis plus ils grandissent, plus des questions vont se poser. Par exemple, parfois, les enfants mentent, les adolescents aussi mentent. Alors pourquoi est-ce que c'est pathologique ou au contraire, est-ce que c'est des choses nécessaires pour construire son petit monde et grandir? Et donc, on s'est posé des questions sur les pères, sur les mères, sur les enfants. En fait, c'était les questions que tous les parents se posent. C'est pour ça que j'ai mis dans mon titre « parents ordinaires » parce qu'il ne s'agit pas d'être des super-héros.
Vous trouvez qu'ils se mettent trop la pression? Je ne sais pas comment vous les percevez aujourd'hui, les parents que vous rencontrez.
Exactement. Je trouve que un certain nombre de parents se mettent une pression absolument intolérable. Je dis super-héros pour dire que vraiment c'est quelque chose qui est au-delà quoi de ce qu'on est capable de faire. On est des parents avec tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on voudrait, tous nos rêves aussi. Et si on se met une pression trop grande, en fait, en réalité, on arrive... on n'arrive même plus à transmettre les choses simples qu'on a à l'intérieur de nous et qui aident les enfants et les ados, hein, parce que il y a beaucoup de questions qui concernent les adolescents aussi, leurs identités sexuelles, leur manière de s'opposer à nous, toutes ces questions vraiment...
Est-ce que vous trouvez, Marie-Rose Moreau, que la mondialisation complique aujourd'hui beaucoup la parentalité, en quelques mots?
Alors, c'est-à-dire que oui, elle la complique au sens de, il n'y a pas un seul modèle. Là où on est, il y a plusieurs modèles parce que voilà, ça circule énormément. Et donc du coup, on pourrait dire qu'aujourd'hui, on est obligé d'inventer sa manière à soi avec ses enfants d'être parent. On n'a plus un modèle unique qui va rassurer tout le monde. Et l'autorité, par exemple, cette question de l'autorité qui va se poser assez vite, en fait, il faut y répondre de différentes manières. Il n'y a plus cette idée « écoute-moi parce que je suis ton père, écoute-moi parce que je suis ta mère », mais on invente des manières d'être autoritaire et surtout... autoritaire au sens de protéger et de dire non.
Autant de sujets qu'on aborde évidemment chez 7 milliards de voisins. Merci beaucoup Marie-Rose Moreau. Le livre de vos chroniques, 50 questions sur les bébés, les enfants, les adolescents. Comment devenir des parents ordinaires ici et dans le monde, édité à la Pensée Sauvage. Vos chroniques bien sûr sont toujours disponibles en podcast. Parents, enfants d'ici et d'ailleurs, RFI. Et celles des psychologues à Dakar et Bamako également. Vous avez, les voisins et les voisines, un très très large choix de sujets de chronique maintenant quand vous allez télécharger ce podcast. Vous venez aussi de publier, Marie-Rose Moreau, un livre illustré sur la famille, expliquer aux enfants quand ça va, quand ça va pas, et qui est publié chez Glénat Jeunesse. Merci à vous, Marie-Rose Moreau. Très bonne journée.
Merci beaucoup.
Demain, 7 milliards de voisins, reportage dans les écoles en Guinée-Conakry, où sont passés les manuels scolaires, avec souvent un manuel pour 3 ou 4 élèves, et parfois pas de manuel du tout dans certaines matières. Le problème est bien connu des enseignants et des parents. Ne manquez pas l'émission et l'enquête de Charlie Dupuy demain. Et dès maintenant, des photos d'ailleurs sont disponibles sur Instagram, 7 milliards RFI, sur Facebook et sur Twitter. Merci à toute l'équipe, Juliette Brault, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Didier Cherouze. Dans quelques secondes, ce sera le journal sur RFI.
Sept milliards de voisins, c'est fini. C'est samedi.